ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Bonjour.
Bonsoir. Alors, on commence une nouvelle émission de Dégenré avec une question piège. Caro, est-ce que tu préfères traverser la ville à vélo quand il pleut et arriver complètement mouillé, ou traverser la ville au printemps quand il fait beau et arriver avec plein de pollen dans les yeux?
Je m'en fous du printemps, je suis pas allergique au pollen.
Eh bien, de toute manière, on fait pas une émission sur le pollen, ni sur les allergies. Aujourd'hui, on fait le volet 2, tant attendu, de l'émission sur les vélos. On avait fait, il y a presque un an, une première émission sur les vélos où on avait plus parlé de la pratique du vélo. Apprendre à faire du vélo, les vélos écoles, les vélos russions, les greffes des livreurs à vélo. Mais aujourd'hui, on va plus vous parler de l'objet vélo. Comment on l'appelle? Est-ce que le cadre du vélo a un genre? Est-ce que les vélos ont des genres? Est-ce que tout le monde peut utiliser n'importe quel vélo? Et comment ça se passe quand on veut réparer notre vélo? Comment on peut trouver les bons outils ou alors les bonnes pièces? Et comment sont produits les vélos? Tout ce genre de questions qui vont traverser l'émission, pas dans le sens très logique de la production vers la déchetterie, mais un peu dans tous les sens, finalement. Et on commence donc avec cette première question importante. Les vélos ont-ils un genre?
D'après les anciens catalogues de vélos, au tout début, quand les vélos ont commencé à être produits à série, eh ben oui, on trouvait des modèles hommes ou génériques qui avaient des cadres avec une barre horizontale et des modèles dames qui ont une barre supérieure abaissée pour pouvoir les monter avec une robe longue et ample. Et ces vélos dames avaient généralement un garde-chaîne qui, comme son nom l'indique, isole la chaîne et évite que la rampe se prenne dedans, ainsi qu'un garde-jupe qui, elle, isole la roue. Et donc, les premiers vélos dames, c'était des vélos que l'on pouvait utiliser en étant habillé comme une dame.
Mais en vrai, il doit bien exister des mots pour nommer les cadres ou les vélos qui ne sont pas des mots qui sont liés au genre.
Tout à fait. Et on peut trouver une liste des termes pour décrire les différentes formes de cadres sur wiclou.org. Wiclou.org, c'est le wiki du biclou. C'est un espace de partage de ressources autour du vélo qui était à la base conçu par et pour les ateliers vélo participatifs et qui est devenu au fil du temps un outil utilisable par tous. Et sur ce site, on voit qu'on peut appeler les cadres avec une barre horizontale des cadres fermés ou diamants. Et c'est la géométrie qui permet une meilleure rigidité. Et pour les géométries qui permettent d'enfourcher sans lever la jambe, et ben on parle de cadres ouverts. Et il y a différentes variétés de cadres ouverts. Il y a les cadres en col de cygne, quand le tube horizontal est incurvé, le cadre torpille ou trapèze, quand la barre est droite et abaissée, le cadre monopoutre, quand il n'y a tout simplement pas de barre supérieure. Et il y a les cadres mixtes, ça c'est quand il y a deux tubes supérieurs qui sont soudés au niveau des pattes arrière du vélo, au niveau de l'axe de la roue. Et le Wiclou précise que cette appellation cadre mixte, elle est issue des anciennes appellations genrées, qu'on devrait éviter car discriminant, et qu'on pourrait renommer ça un cadre torpille avec tube supérieur dédoublé, mais ce serait un peu longuet. Et enfin, il y a les cadres suspendus des vélos qui ont une suspension arrière et qui ont des formes diverses et variées, comme celui que j'utilise en ce moment, qui a plutôt une forme de Y.
Et du coup, il y a des vélos qui ont des cadres ouverts et souvent, ils sont vendus comme des vélos pour femmes. Mais en vrai, est-ce que les femmes, elles utilisent plus ces vélos-là ou est-ce qu'elles utilisent vraiment en particulier ces vélos-là ?
Pas toujours. Déjà, moi pas. J'ai roulé pendant des années avec un vélo cadre course, forme diamant, en mini-jupe. Et ça posait pas de problème. La jupe était trop courte pour que ça pose un problème. Et j'ai pas vraiment besoin d'un garde-jupe à l'arrière. Par contre, peut-être que j'aurais besoin d'un garde-sangle de la sacoche de banane. Ça, par contre, ouais, ça se prend dans la roue arrière et c'est un peu dangereux.
Ça t'est déjà arrivé pour de vrai ?
Ouais.
Aïe.
Et dimanche dernier, comme je me posais la question, je me suis posée devant la chrono-vélo et j'ai regardé une centaine de cyclistes passer et j'ai regardé à quoi ressemblaient les cyclistes et à quoi ressemblait leur vélo. Et parmi les personnes qui ressemblaient à des hommes, même si la majorité avait des vélos cadre diamant, il y en avait quand même plus d'un tiers qui avaient un vélo à cadre ouvert. Et de la même façon, même si la majorité des personnes qui ressemblaient à des femmes que j'ai vues passer avaient un vélo cadre ouvert, il y avait aussi plus d'un tiers qui avaient un cadre diamant. Donc la corrélation est vraie seulement dans deux tiers des cas. Une autre observation que j'ai faite, c'est que pour les personnes qui ressemblaient à des hommes avec un cadre ouvert, une fois sur deux, c'était parce que le vélo était un vélo de location, soit un métro-vélo, soit un Voy. Et ces vélos-là, il n'y a qu'une seule forme possible. Tu n'as pas le choix, c'est cadre ouvert ou cadre ouvert. Alors que pour les personnes qui ressemblaient à des femmes avec un cadre ouvert, un quart, c'était un vélo de location et trois quarts, c'était un autre type de vélo personnel.
Mais peut-être qu'en vrai, c'est récent que les femmes, elles utilisent des cadres diamants, des cadres dits diamants.
Eh ben non, ça fait depuis le 19e siècle. Quand Annie Londonderry, dont on a parlé dans le premier épisode sur les vélos, a fait son tour du monde entre 1884 et 1885, elle est partie sur un vélo à cadre ouvert en portant une jupe longue et un corset. Mais en cours de route, elle a switché pour un vélo avec un cadre diamant et une culotte. Et dans ce même premier épisode, j'avais parlé d'un journal d'une association de cyclotouristes classe moyenne inférieure dans les années 30 au Royaume-Uni, dans lequel il y avait une rubrique écrite par et pour des femmes. Et dans cette rubrique, déjà dans les années 30, on conseillait d'utiliser un cadre en diamant pour les pratiques de loisirs. Et on déplorait pour les femmes qui devaient utiliser un cadre ouvert parce qu'elles utilisaient le vélo pour se rendre au travail et qu'elles devaient travailler en jupe, que les vélos proposés étaient trop lourds et pas assez efficaces. Parce que comme les cadres ouverts sont plus sensibles à la torsion que les cadres diamants, les fabricants compensaient en construisant des cadres avec des tubes trop gros et n'arrivaient pas à faire des vélos assez efficaces. Malheureusement, le lien vers cet article, il est cassé, on ne peut plus le retrouver, dommage.
Ah zut. Bon, en gros, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment des cadres hommes et des cadres femmes. C'est des mots, quoi. Et pour continuer l'émission, on va répartir dans l'émission plusieurs petits bouts de reportage. On est allé à la permanence de la Cyclique, qui est une des permanences de l'atelier vélo du Petit Vélo dans la Tête, qui est une permanence qui se passe en non-mixité, sans hommes cis hétéros. Et on est allé faire un petit reportage là-bas. Et on va écouter un premier reportage, un premier extrait du reportage où on a une visite personnelle de l'atelier du Petit Vélo dans la Tête.
Je déteste tellement la méca vélo que j'en ai deux. Comme ça, les deux vont bien. Et je suis jamais dans l'urgence de le réparer. S'il y en a un qui tombe en panne, j'ai pas de pression, je remonte chez moi, je prends l'autre. Et après, j'ai le temps pour réparer le deuxième.
On va faire un tour de l'atelier. Ok, on est vers l'entrée. Le petit endroit d'accueil, il y a la cuisine. Voilà, un petit coin pour mettre ses affaires, tout ça.
Je suis en train de monter un vélo dans l'optique de l'offrir à mon petit frère. Voilà.
Il y a un peu trois hangars, quoi. Et un des hangars est rempli de vélos. Donc voilà, là, ça a un peu la partie stockage de vélos à vendre. Donc ils sont des vélos qui, en général, nécessitent quelques réparations. Il y a rarement des vélos qui n'ont pas besoin d'être réparés et qui attendent un collègue humain. Et je l'ai trouvé lui sur le Bon Coin parce qu'il était dans le centre de Grenoble, donc c'était facile pour moi d'aller le récupérer. Il est un peu trop petit pour moi, mais avec des bric-à-brac, et ben maintenant il va bien, donc je l'ai trouvé sur le Bon Coin.
Ok, comment t'as fait pour le mettre à ta taille ?
Eh ben, j'ai réorienté la selle. Je sais pas trop comment on dit, mais l'inclinaison de la selle, je l'ai mise plus de manière à être en avant pour que mon dos il soit plus ouvert. Et j'ai juste... Zo, ça s'appelle comment ça ? Ben voilà, et j'ai monté juste la tige de la selle. Donc j'ai pas fait grand chose.
Après là, depuis le poil, on voit là, un peu la salle principale, quoi. Donc là, il y a quelques pieds d'atelier. Et puis, beaucoup de tiroirs de caisses remplis à ras-bord. Et des outils accrochés au mur, qui sont un peu triés par... et les pièces et les outils sont un peu triés par couleur. Ce qui permet de... Et les couleurs correspondent à des thèmes, en tout cas à des fonctions du vélo. Donc par exemple, les freins ou la transmission. Donc transmission, tout ce qui est dérailleur, pédale, pédalier, tout ça. Voilà.
Je sais pas, moi j'ai l'impression que je remonte souvent les trucs dans le mauvais sens parce que j'ai pas bien regardé comment c'était avant et j'ai pas la mémoire de comment c'était avant. Alors voilà, donc bah, là c'était pour un cône d'axe et puis la fois d'avant c'était pour un chariot de selle. J'avais pas remonté dans le bon sens, alors ma selle elle arrêtait pas de faire oui, oui, oui. Est-ce que j'avais pas remonté le chariot dans le bon sens ? Voilà.
Après, dans l'autre salle, la grande porte, il y a l'espace roue.
Là, c'est un grand espace dédié à la réparation de la roue, quoi. Donc, il y a des pneus accrochés au mur, il y a des tiroirs remplis de rayons, tout un panneau d'outils consacré à la roue et des tiroirs remplis de pièces, encore une fois. Voilà.
Je sais pas, je fais pas des trucs de ouf, moi. Je règle mes freins régulièrement, je dévoile mes roues. Si, il y a quand même, je pense, le moment où j'ai capté vraiment comment ça marchait pour dévoiler sa roue, ça a fait un truc dans ma tête. J'ai eu l'impression d'atteindre un niveau, d'un niveau en plus. Voilà.
Et là, oh là, le gros tas de valorisation. Donc ça, c'est des vélos qui... sont en attente d'être triés quoi, et d'être diagnostiqués pour voir est-ce que on les démonte complètement, est-ce qu'on garde des pièces. Donc faut plutôt pas trop servir là-dedans parce que ça peut vraiment arriver que par exemple il y a un vélo où on remarque pas mais le cadre est pété par exemple et ça peut être un peu dangereux, donc c'est pour ça qu'on les met là un peu, c'est pour que après les bénévoles tous les mercredis viennent les diagnostiquer et qu'ils soient un petit peu plus sécures à revendre après.
Je viens parce que mon vélo il avait un petit jeu à l'avant sur le guidon et il y a plein de gens qui m'ont dit que ça arrive qu'il y ait des personnes qui se cassent la gueule et vraiment qui sont pété toute la mâchoire et les dents quand le guidon il lâche quoi. Et c'est vraiment le côté cassage de dents qui m'a fait me dire faut que j'aille réparer mon vélo.
Et là, ben voilà, on a un très grand atelier et du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces aussi partout. Notamment une étagère vraiment remplie à ras-bord de cintres de guidon, quoi.
Et quand j'ai appuyé avec le pied droit, il me fait un petit bruit bizarre. Mais vu que je m'y connais pas assez, ça, je le verrai peut-être plus tard. Et nouveau projet, nouvelle ambition, changer le... Comment ça s'appelle ? Changer le cintre.
Pourquoi changer le cintre ?
Parce que le bleu, c'est plus joli que le noir.
Et avant ça, il y a le petit espace crevaison aussi. Pareil, où il y a tout un peu rassemblé hein, au même endroit pour réparer les plats.
Tu penses que c'est bon, là ?
Faut bien casser.
Et ça va pas péter ?
Non, franchement, ça va pas péter, mais surtout, il faut quand même que ce soit pas trop mou, sinon... Là, franchement, c'est quand même... Bah, en fait, plus tu roules plat, plus tu risques de crever aussi.
Hein. Après, là, il y a... des meubles qui font deux fois ma taille, je pense, remplis d'accessoires, notamment des selles, et après de plein de petites pièces aussi. Il y a un devant et un derrière, quoi, donc c'est très très vaste. Et ensuite, une flopée de garde-boue à l'ancienne, qui ne trouve pas souvent acheteur.
Qu'est-ce qu'ils ont d'ancien, ces garde-boue ?
Qu'est-ce qu'ils ont d'ancien ? Ben, ils brillent, ils ne sont pas en plastique. Et souvent, ils frottent quand on les installe. Donc c'est pas pour rien qu'ils restent là.
Après, j'ai essayé de mettre un garde-boue, échec et maths.
Comment donc, ça se fait
en fait, je m'y connais absolument pas. Donc, j'ai essayé de mettre des pièces dans des pièces et tout. Je crois que j'ai compris un peu comment ça marchait. Et dans tous les cas, il faut que j'y aille. Et je me suis dit, ok, j'abandonne, je testerai une autre fois. Mais au moins, j'ai compris quoi va où. Donc, voilà.
Là, il y a un petit espace, enfin, un espace pour déposer son vélo. Parce que bon, ça arrive quand même qu'on se lance dans une réparation, qu'on ne puisse pas trop repartir avec. Donc on peut remplir une petite fiche pour dire que le vélo il est à nous et il peut rester 15 jours ici. Et puis sinon, on appelle la personne pour savoir quand elle va le récupérer, quoi.
J'ai mis un porte-bouteille alors que c'est vraiment pas la priorité quand le vélo n'a pas encore de roue.
Et à l'arrière, il y a tout un espace avec plutôt des machines, genre là, une perceuse à colonne. Et puis, ouais, un grand établi. Bon, c'est un peu le bordel, hein, faut le dire, mais bah, là, il y a une remorque avec des bouts de cadre, des bouts de métal mis ensemble, quoi. Et en général, c'est là que ça se bricole. Et juste derrière, il y a la pièce à soudure, une grande pièce où il y a un peu tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Voilà.
Merci.
De rien.
Zazie part dans la nuit, Zazie fait de la bicyclette, 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 Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré sur Radio Campus Grenoble 90.8. On parle de vélo, de cadre de vélo et de pièces de vélo. Et on vient d'écouter le morceau Zazie fait de la bicyclette des Plasticines. Et juste avant le reportage à la cyclique, on parlait donc des cadres de vélo, de leur genre, etc. Mais est-ce que vraiment les gens ils continuent à utiliser les mots genre vélo de femme, vélo d'homme, tout ça?
Eh ben, dans les supermarchés du sport, plus trop maintenant. La dernière fois que j'ai regardé les vélos chez Decathlon, eh ben, il n'y avait qu'un seul vélo estampillé femme chez eux, un vélo électrique. Et les vélos de ville de chez Decathlon à cadre ouvert, maintenant, on les décrit comme cadre bas, enjambement bas et plus modèle d'âme. Et chez Intersport et les vélos Nakamura, eh ben, c'est pareil. Sur leur site, maintenant, si tu déroules le menu déroulant femme, vélo ou homme, puis vélo, eh ben, tu tombes exactement sur la même page avec exactement les mêmes modèles.
Mais attends, parce que ça, c'est ce que font les magasins. Mais les gens, par exemple, s'ils vendent leur vélo sur le bon coin, ils disent comment ?
Eh ben, ils ont beaucoup plus tendance à assigner un genre à leur vélo. J'ai regardé les annonces et il y en a encore beaucoup qui appellent les vélos des vélos de femmes. Soit parce qu'ils ont un cadre ouvert, ou soit parce qu'ils ont des couleurs girly, ou soit dans le cas d'une annonce de vélo pour femmes ou adolescents, c'était une drôle de façon de dire un vélo pour humain de petite taille. Et il y a encore des vélos neufs qui sont vendus comme pour femmes, et eux, c'est plutôt des vélos haut de gamme pour une pratique sportive, par exemple la marque Cannondale, qui propose des déclinaisons de femmes de certains modèles, ou même l'entreprise qui commercialise les vélos Giant, qui, elle, a carrément créé une marque de vélos parallèle, Liv, dont ces modèles-là sont conçus indépendamment de l'autre gamme.
Mais du coup, c'est une histoire d'adaptation à des formats de corps, ou c'est quoi ?
En tout cas, c'est comme ça que ces vélos sont vendus. Plus parce qu'ils sont adaptés à une garde-robe féminine, mais parce qu'ils seraient adaptés par la géométrie de leur cadre, ou par la forme des autres composants, ou pour la manière dont ils sont réglés à une morphologie féminine. Parce que, en moyenne, à taille égale, les femmes ont le torse plus court, les jambes plus longues, les bras plus courts, le centre de gravité plus bas. Et c'est pour ça, par exemple, que dans un livre que j'ai trouvé au rayon sport de la bibliothèque universitaire du campus, il y a un ouvrage qui parle de cycles et de sciences et qui décrit qu'avec moins 8,5% de longueur de bras et moins 15% de longueur de dos, à taille égale, eh ben, pour s'adapter à ça, les cadres pour femmes ont une barre horizontale plus courte, ce qui fait des vélos plus resserrés, et un tube de direction plus incliné pour, malgré ce resserrage, garder une bonne distance entre la roue avant et la roue arrière. Et de la même façon, dans le livre « Le vélo au féminin », dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent, l'autrice Louise Roussel, qui était alors cadre à Décathlon, expliquait qu'elle voulait commercialiser des vélos gravel femmes, des vélos avec une potence plus courte pour des bustes plus petits, des cocottes de frein plus rapprochées pour des petites mains, des cintres plus étroits pour des épaules moins larges et la selle adaptée avec un dégagement du périnée.
Mais du coup, ça c'est... Enfin, c'est un peu bizarre, c'est parce qu'il y a des hommes avec des petites mains, enfin...
Bah, tout à fait. Et j'ai trouvé des contre-arguments à cette logique marketing sur un blog d'une états-unienne, Lovely Bike, qui explique bien que ces différences morphologiques entre hommes et femmes, eh ben, elles existent simplement à un niveau statistique, c'est une moyenne. C'est en moyenne qu'à taille de torse égale, les femmes... ont les bras plus courts, les jambes plus longues, etc. Et si on prend au hasard un homme et une femme avec un tronc de même taille, il est simplement probable que ce soit l'homme qui ait les bras les plus longs. Parce que bah, les proportions individuelles, c'est aléatoire. Et elle rajoute que même des cadres pour femmes pourraient ne pas convenir aux femmes qui ont pourtant un corps conforme à ce stéréotype de proportion féminine. Elle-même, par exemple, qui a les jambes longues par rapport au torse, eh ben, elle trouve mieux son compte avec un cadre unisexe en ajustant la longueur de la potence et la position avant-arrière de la selle qu'avec un cadre estampillé femme, donc raccourci, avec lequel elle trouve que la position est très redressée et que les pieds se retrouvent à toucher la roue avant dans les virages.
Oui, du coup, c'est plus une histoire de, bah, d'individu et aussi une histoire de réglage du vélo pour être bien sur son vélo.
Voilà. Et les réglages qui conviennent le mieux à une personne ne sont pas que liés aux pures proportions. Ça dépend aussi de la façon dont la personne se déplace sur le vélo. Par exemple, cette autrice de blog a déjà rencontré quelqu'un qui lui a dit, sans l'avoir pédalé, qu'elle avait une position qui avait l'air agressive pour une femme. Ce serait plus confortable pour elle d'avoir une position plus redressée, alors que c'est par recherche des conforts qu'elle a été amenée à cette position. Et elle a rencontré un mécanicien vélo qui explique que les réglages les plus confortables sont pas uniquement déterminés par le sexe ou par la distribution du poids, mais aussi par la posture, par la courbure de la colonne vertébrale, par une myriade d'autres facteurs qu'on ne peut pas appréhender sans voir le ou la cycliste pédaler. Et en conclusion, l'opinion de l'autrice, c'est qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas encore. Et que peut-être que quand on comprendra mieux ces facteurs, alors on pourrait inventer de nouvelles catégories de géométrie ou de réglage avec des termes moins genrés. Que par exemple, on pourrait aller à une boutique du vélo et demander par exemple un modèle courte portée et pas un modèle femme qui serait pas forcément fuchsia, pas forcément avec des composants low cost, etc. etc.
Et... Aussi, par rapport aux formes de corps, il y a aussi la question du poids, non ?
Et c'est sûr, une de nos collègues nous a rappelé que y a des personnes qui sont exclues de ce que les industries qui produisent des objets en série considèrent comme, une taille normale et un poids normal. Et à partir de 80 kilos, on ne considère plus que tu as un poids normal et on n'assure plus les vélos.
Oui, que les garanties, la plupart des vélos ne sont pas garantis pour un poids au-delà de 80 kilos. Alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pèsent plus de 80 kilos. C'est un truc de ouf quand même. Et juste avant, tu parlais des selles. Et c'est vrai qu'il y a plein de selles différentes. Il y en a des allongées, des super dures, avec des ressorts et tout ça. Et il y a des trucs plus adaptés ou moins adaptés en fonction des gens.
Ouais. Et je recite le wiki du vélo. La question de quelle selle est adaptée ne dépend pas simplement d'avoir une vulve ou un pénis. Parce que la largeur de la selle dépend de la largeur des ischions, la partie des os de la hanche qui sont zone d'appui principale. La largeur de la selle devrait correspondre à cette largeur entre les ischions plus 20 mm. Et donc, les personnes dotées d'une vulve ayant cette distance plus importante, elles devraient choisir une selle plus large. Sauf que, il faut se méfier de cette méthode. parce que la variation entre individus est plus importante que la différence moyenne entre les sexes, et donc il faudrait mesurer cette distance pour choisir la bonne longueur plutôt que de se fier à son sexe.
Et du coup, ça veut dire que notre bassin, il peut être plus ou moins large, quel que soit notre sexe, quel que soit notre genre, si on a une vulve, un pénis ou autre chose, et que du coup, ça suffit pas de penser les organes génitaux.
Et il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est que ces os du bassin, ils sont pas parallèles et ils se rapprochent vers l'avant, et donc la distance entre les ischions, elle varie en fonction de la position. C'est-à-dire, quand on a une position très couchée, l'appui sera plutôt sur les os pubis, qui sont plus rapprochés, et donc le choix de la selle devrait plus dépendre de la position des cyclistes. Une selle large pour une position relevée, comme sur les vélos de ville, une selle médium pour une position intermédiaire, comme pour les VTT, et une selle étroite pour une position couchée. Et c'est pas tout. L'angle du bassin peut aussi être différent d'une personne à l'autre, malgré la position du buste. Certains ont une position en antéversion, et donc l'appui sur la selle est plus en avant du bassin, alors que d'autres sont en rétroversion, et l'appui sur la selle est plus sur l'arrière du bassin. Et en général, les gens qui ont un dos cambré sont plus en antéversion, et celles qui ont le dos rond, plutôt en rétroversion. Pour que l'assise soit confortable, le poids des cyclistes doit être bien réparti entre les os et la masse musculaire. En position couchée ou en antéversion, l'appui porte plutôt sur le haut des cuisses et l'arrière de la selle devrait être plus allongé, et en position relevée ou en rétroversion, plutôt sur les fesses et donc l'arrière de la selle plus large. Et plus la masse est importante, plus la selle doit être large. Et un autre facteur qui joue sur le confort de la selle, c'est le périnée, que quand sa partie avant est en appui sur la selle, ça peut provoquer pas mal de problèmes lorsque la compression est excessive ou prolongée. Il paraît que la littérature est très discrète sur les différents organes sexuels affectés, mais qu'on peut supposer que les organes avant, verge ou clitoris, sont plus touchés lorsque la position est plutôt couchée, et que les organes plus arrière, lèvres de la vulve ou scrotum, seront plus affectés lorsque la position est plus relevée. Et que les problèmes sont généralement les mêmes pour les deux sexes, mais que pour les personnes dotées de vulve, on peut avoir en plus des risques accrus d'infection, et une zone sensible plus large, surtout pour les personnes dont les lèvres internes débordent des lèvres externes. Et globalement, plus la position est couchée, plus le bassin penche vers l'avant, plus l'assise est proche du bec de selle, et plus on risque d'avoir des problèmes au périnée. Mais les causes les plus courantes de ces problèmes, c'est une selle mal réglée. Et comme ça coûte cher, il est préférable de commencer par revoir les réglages avant tout achat.
Tu aurais des petits conseils ou des petits tips pour nous aider à régler notre selle de vélo?
C'est pas mes tips, c'est celle de la contributeuriste du Weeklook, qui dit que si on a une selle trop haute, ça accentue la compression du périnée, et les autres symptômes de selle trop haute, c'est un balancement latéral important pendant le pédalage, des douleurs au bas du dos, aux chevilles, à l'arrière du genou, une diminution de la cadence.
Donc si on a ça, si on en chie sur ces trucs-là, on baisse notre selle.
On pourrait aussi avoir une selle trop en arrière. Le problème, c'est que ça pousse vers l'avant de la selle ou que ça bascule le bassin vers l'avant. Et là, les autres symptômes de la selle trop en arrière, c'est une diminution de la puissance au pédalage, des douleurs au bas du dos ou au bras.
Et là, dans ce cas-là, hop, il faut trouver un moyen de ravancer sa selle en direction du guidon.
Ouais. Et un autre problème, ça peut être l'inclinaison de la selle avec un bec de selle qui remonte trop haut, qui comprennent directement le périnée, ou un bec de selle qui plonge trop bas, et là, on glisse vers l'avant du vélo, et donc, on se fatigue les bras.
Et donc, les selles, on peut aussi les régler, on peut régler leur orientation pour éviter ces deux problèmes-là.
Voilà.
Trop bien. Et du coup, là, on a beaucoup parlé des vélos sur la question des formes de corps plus classiques, ce qui est le plus étudié aussi, j'ai l'impression, et qui est aussi beaucoup lié à comment sont vendus des cadres ou des vélos ou des accessoires de vélos. Et une des autres questions, c'est la question de l'adaptation, notamment handicap. On a évoqué la question aussi de l'adaptation du vélo pour le poids, mais en fait, il y a plein de vélos, ils sont super compliqués en fonction du fonctionnement de nos corps, qui sont très très compliqués à utiliser. Et ça coûte extrêmement cher, les vélos dits adaptés. Ça fait vraiment bondir leur prix, quoi. Mais dans les vélos adaptés, on trouve pas mal de styles de cadre ou de vélos différents. Il y a par exemple des vélos avec un cadre abaissé, mais très très abaissé, de manière à pouvoir facilement enjamber le vélo pour s'asseoir sur la selle. Il y a aussi des vélos qui ont une assistance électrique. Il y a des vélos qui fonctionnent avec un pédalage par les mains et des vélos qui fonctionnent aussi avec un système de tricycle pour l'équilibre, pour aider à l'équilibre. Et du coup, tous ces vélos, bah, il peut à des moments y avoir des aides pour les obtenir, mais c'est quand même super compliqué d'obtenir les aides. Et c'est pas tout le temps. Et par exemple, à un moment, l'État français, il y avait des aides pour acheter des vélos. Et à un moment, ils ont fait tout un blabla comme quoi ils conservaient l'aide pour les vélos adaptés. Et en fait, c'est pas vrai. Finalement, ils l'ont aussi supprimé. Parce que du coup ils avaient arrêté l'aide et ils avaient dit mais pour les vélos adaptés on la prolonge jusque 2027, maintenant on cherche, il n'y a plus rien, en fait ils l'ont supprimé. Et c'est des vélos qui coûtent vraiment super cher. Du coup voilà, il y a aussi d'autres formes de cadres qui peuvent exister, d'autres formes de vélos qui peuvent exister pour, bah, voilà, pour tout le monde, mais le problème c'est que c'est pas accessible quoi en termes de prix. Pour continuer l'émission, on va retourner dans l'atelier de la cyclique avec plus une présentation des permanences de la cyclique et des petits bouts de discussion sur la non-mixité.
J'ai mis des coups de pied pour le fermer. Il faut pas
serrer si fort. T'as mis des coups de pied.
Prends la manivelle.
Bah, je fais de la boxe.
Ah, tu fais de la boxe.
Bah oui, j'ai fait de la boxe avec le
C'est en allant réparer mon vélo qu'on m'a parlé de cet atelier, que c'est les premiers et troisièmes vendredis du mois, je crois. Et du coup, c'est la première fois que je viens. Voilà, et c'est trop bien. J'ai une bénévole qui s'est trop bien occupée de moi. Je suis trop à l'aise et ça fait plaisir.
Les infos que j'ai, c'est que au petit vélo, il y avait des problèmes de discrimination, mais notamment de sexisme.
Je suis venue ici dans ces locaux, au petit vélo dans la tête, il y a... je dirais entre 2009 et 2010, et je m'étais vraiment pas fait bien recevoir. Enfin, j'avais compris qu'en fait, si t'étais pas autonome, on t'aidait pas et qu'on te gueulait dessus si tu demandais de l'aide. Et du coup, ça m'avait complètement, pas trauma, mais j'y suis jamais retournée. Donc j'avais payé une adhésion pour jamais y retourner. Et en fait, depuis, je me suis dit, mais plus jamais je fous un pied là-bas. Et du coup, quand on m'a dit qu'il y avait cet espace-là, je me suis dit, ah, trop bien. Du coup, je suis de retour, genre 15 ans plus tard. Mais genre, c'est trop cool.
Il y a des gens qui se sont dit, bah, peut-être il faut qu'on fasse quelque chose. Et elles ont demandé à un collectif extérieur de venir un peu genre, faire des entretiens et discuter avec les gens et essayer un peu de faire une enquête pour voir bah, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que aussi elles peuvent mettre en place. Je crois que c'est un collectif qui s'appelait genre Virus 36. Et du coup, ils ont produit un travail d'enquête et une de leurs recommandations à la fin, c'était ah, mais peut-être aussi de faire des espaces en mixité choisie. Ça peut être aussi une étape quoi, pour que, ce soit, que l'atelier soit un espace plus inclusif. Et ça devait être genre autour de 2008, je dirais, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si ça recoupe ce qu'on a pu vous dire, mais en tout cas, moi, c'est ma version.
Il y a trois personnes des Gassi 7 qui m'ont dit qu'ils allaient réparer mon vélo, ils ont fait pire. Et ils osent pas dire après qu'ils ont fait pire. Et donc j'ai dû changer toutes les pièces. Parce qu'ils savent pas dire, je sais pas, demande à quelqu'un d'autre. Du coup, ils ont empiré à chaque fois l'état de mon vélo. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais venir dans un espace en mixité déjà.
Du coup, c'est deux fois par mois. Des fois un peu plus quand on a envie de faire des permanences un peu spéciales. Et c'est 100 maxis hétéro, où je ne sais pas comment c'est formulé en fait sur notre communication, mais c'est peut-être écrit femme et personne LGBT, je ne sais pas trop. Et je crois que ça n'a pas toujours été le cas, que c'est une mixité qui a évolué avec le temps et qu'il y a eu des réflexions sur bah, en fait, c'est qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qu'on veut faire quoi. Donc, maintenant, on en est là.
Même si des fois on est un peu à l'aise à bricoler ou à faire des trucs, c'est quand même vraiment plus agréable quand il n'y a pas de gars qui nous donnent des conseils à la con ou qui nous prennent de haut ou qui parlent mal ou bref, toutes ces relations à la con. Donc c'est vraiment plus agréable.
Et tu te souviens pourquoi c'était la première fois que t'es venue?
Ouais, c'est parce que mes freins marchaient plus.
Et donc, alors, comment ça s'est passé la réparation?
Eh ben, ça s'est super bien passé. Il y a un bénévole qui est venu pour tout m'expliquer. Il y a même des gens qui étaient là pour eux, leur vélo personnel, qui m'ont aidé aussi. Et donc, ça s'est super bien passé. Et même maintenant, j'ai l'impression que je pourrais refaire le truc. Donc, c'est que je m'en souviens un peu et que j'ai compris comment ça fonctionnait, quoi. C'est cool.
Ah, les freins. Les freins, c'est la vie.
L'absence de freins, c'est pas la
diable. Ce que je demande n'est pas difficile. Il me faut deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne à
piéton traversé.
Toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec l'émission de Dégenré qui parle aujourd'hui de vélo et on vient d'écouter le morceau À vélo de Billy the Kick. Et maintenant, on va passer dans le volet sociologique de notre émission puisque Caro, tu vas nous traduire, nous résumer un article sociologique sur les vélos et leur usage et qui utilise quel vélo.
Tout à fait, c'est un article qui s'intitule « Le vélo, un objet qui révèle, renforce et perturbe l'ordre de genre » et qui est sorti en 2021. Il s'appuie sur 4 corpus de données, chacun récolté par chacune des co-autorices. Le premier, c'est des vidéos de cyclistes accompagnées d'entretiens semi-directifs de ces cyclistes dans les villes de Lyon et de Saint-Étienne. Le deuxième, c'est des photos de vélos pour enfants vendus comme vélo de fille et vélo de garçon. Le troisième, c'est des entretiens d'ados et de certains de leurs parents. Et le dernier, c'est une autre série d'entretiens avec des cyclistes adultes à Lyon.
Et alors, ils racontent quoi ces articles?
La partie concernant les vélos pour enfants, eh ben, on voit que ces vélos-là sont bizarrement, ou pas bizarrement, beaucoup plus genrés que les vélos pour adultes. Avec les vélos pour filles qui sont plus fréquemment roses, qui ont plus fréquemment un panier, une béquille, un carter de chaîne, un porte-poupon, alors que les vélos vendus comme garçons sont plus fréquemment des VTT et ils ont plus fréquemment des suspensions. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la fameuse marque Leaf qui vend des vélos haut de gamme pour des femmes, eh ben, elles ont également dans le catalogue un vélo pour fillettes qui fit complètement au stéréotype. Rose, porte-bébé, carter de chaîne, etc. etc.
Waouh ! Et le bout suivant ?
Les ados. Eh ben, pour les ados, quand on leur demande ce que c'est pour elles des vélos d'hommes ou des vélos de femmes, eh ben, elles perçoivent les vélos de ville sur lesquels on a une posture droite plutôt comme des vélos femmes et les vélos sport plutôt comme des vélos garçons. Par exemple, il y a une ado qui dit qu'elle n'est pas à l'aise sur un vélo de garçon et quand on lui demande de préciser ce qu'elle entend par là, eh ben, voilà ce qu'elle répond.
Pas de garçon, mais... Vous voyez, c'est quand même plus des garçons qui... Ben, les BMX, ça fait très garçon. Mais même les VTT, enfin je veux dire, surtout avec les amortisseurs partout, il y en a, on dirait, des motos. Et puis même les vélos pour le cyclisme, c'est quand même presque que des hommes qui en font, j'ai l'impression, non ?
Concernant les adultes, les femmes interrogées, en moyenne, ont moins de vélos que les hommes. Et leurs vélos sont plus souvent équipés pour le transport d'enfants et ou de marchandises. Et elles ont plus souvent des vélos de ville ou de VTT. Et quand on les interroge sur pourquoi elles choisissent leur vélo, elles mettent fréquemment en avant la sécurité, comme cette femme qui dit cela.
Je trouve que les gens sont moins agressifs quand on est en vélo de ville plutôt qu'en vélo de course. Et du coup, là, j'ai acheté un vélo de ville qui est très bien équipé. Donc, ça permet d'être un peu plus haut. Alors, je sais pas si c'est ce que les gens nous voient plus haut, donc ils nous voient mieux. Mais je me sens un peu mieux, plus en sécurité qu'avec le vieux vélo de course à l'ancienne. C'est un truc qui est très bien équipé, j'ai des phares assez puissants, j'ai des freins à disque, histoire de pouvoir freiner pile.
Alors que les hommes, ils parlent plutôt d'aimer avoir une sensation de vitesse, d'avoir un vélo bien entretenu, comme cet homme qui a choisi autre chose qu'un vélo d'huile pour ses trajets boulot-domicile. Et voilà comment il explique son choix.
Le VTT, je n'ai pas pris, parce que pour les trajets urbains, c'est quand même compliqué. C'est lourd, t'es pas aussi agile qu'avec un vélo de course. Un cousin qui bosse dans le milieu du sport, notamment dans le milieu du vélo, m'a dit « VTC, ça t'ira pas parce que si tu veux faire des sorties avec un VTC, tu n'auras pas la sensation de vitesse. » Et moi, ce que je cherche, c'est la sensation de vitesse-rapidité. Et du coup, je suis parti sur un vélo de course. Mais c'était un truc qui faisait 8 kilos. C'était vif, quoi. Vif, c'est ce que j'appréciais.
Et concernant la mécanique vélo, ce que ça révèle, c'est que souvent quand il y a un couple hétérosexuel, c'est l'homme qui prend en charge, qui gonfle les pneus du vélo de sa conjointe. Et qu'un usage spécifique des femmes, c'est utiliser le vélo pour échapper au harcèlement.
Et oui, ça c'est des trucs qu'on avait évoqués dans la première émission aussi. Et toi, tu dois choisir un vélo, ça serait quoi tes critères de choix pour un vélo ?
Comme on a vu, la forme du cadre, ça je m'en fous un peu, puisque je peux porter des mini-jupes avec un cadre diamant. J'aimerais bien que ce soit un vélo assez petit, assez léger, pour qu'il soit assez vif. Et un truc que j'avais pas sur un ancien vélo et que j'aimerais bien avoir, parce que c'est un cadre de course, c'est de quoi fixer un porte-bagages à l'arrière. Pour pouvoir faire mes courses facilement, vu que j'ai pas de véhicule, et pour pouvoir y mettre des sacoches et pour pouvoir partir en vacances avec. Et toi ?
Moi, j'ai des envies incompatibles. Par exemple, j'aimerais un vélo ultra solide pour pouvoir porter plein de choses, genre moi plus quelqu'un derrière ou moi plus des énormes cagettes de récup, mais avec un cadre très très léger. Complètement incompatible. J'aimerais bien un vélo où je peux passer facilement la jambe pour les moments où j'ai super mal au dos, mais en fait c'est pas les cadres les plus légers, en général c'est les cadres plus lourds quand la barre elle est basse. Et surtout j'aimerais un vélo plus à ma taille que mon vélo historique que j'ai depuis plus de 20 ans, mais en fait c'est assez rare les barres en diagonale un peu basse, mais avec un cadre grand pour les personnes plutôt grandes. Donc, autant dire, peut-être que le vélo de mes rêves n'existe pas.
Mmh. Ou peut-être qu'il faut le faire souder sur mesure.
Ouais, ça c'est une autre question qui viendra après ce dernier extrait de reportage à la cyclique.
À l'atelier, c'est quoi les types de vélos que vous rencontrez ? C'est des vélos plutôt anciens ? C'est des vélos plutôt nouveaux ?
La cyclique, c'est plutôt des vélos de ville assez anciens, j'ai l'impression. Enfin, de temps en temps, il y a des gens qui ont des vélos plus récents. Mais moi, je suis aussi dans d'autres ateliers d'autoréparation, c'est plutôt du vélo qui a plutôt bien roulé. Ouais.
Et il est vieux, on le répare, il est comme moi.
Mais là, c'est un truc à billes.
Les pimpés, je crois qu'on voit qu'il est vieux.
Quand une personne a une pièce qui est cassée sur un vélo ancien, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile de trouver des remplacements ?
Ça va dépendre, il peut y avoir des vélos anciens, plus ou moins anciens, qui sont quand même dans des standards qui sont restés jusque-là. Donc on va en avoir pas mal en stock. Mais forcément, souvent sur des vélos anciens, il peut y avoir des standards qui sont plus trop hauts. Ou du coup, ça va dépendre vraiment de ce qu'on a en stock. Et aussi, l'enjeu, c'est est-ce que les pièces dans l'atelier sont bien triées ? Parce qu'on peut avoir les pièces, mais elles sont mélangées avec d'autres pièces et il faut trouver la bonne taille. Ça dépend aussi sur quelle partie du vélo. Il y a des parties où ils sont à peu près restés sur les mêmes standards, mais globalement, dans le vélo, la passion des fabricants, c'est de faire le plus de plein de standards différents. Du coup, c'est marrant parce que c'est pas vraiment des standards, mais c'est la galère pour ça. Ouais.
Enfin, si par exemple il me manquait des billes, j'ai pas trop de billes chez moi. Je voulais aussi, on va dire, j'ai de la ressource chez moi, mais j'avais envie d'être dans un endroit où j'avais vraiment tout le matériel nécessaire, voire même une roue de rechange si jamais j'avais un problème avec ma roue. Et au petit vélo, il y a vraiment plein de choses. Et puis j'aime bien l'ambiance de la cyclique. Je viens que au cyclique, par contre.
Là, il y a eu peut-être une période où il y a eu une volonté de créer des standards qui vont plus être développés et du coup, ça fait en sorte que c'est plus facile. Mais là, après, sur les vélos très modernes, ça devient aussi compliqué parce qu'il y a plein de nouveaux systèmes qui ne sont pas compatibles. Bah, parce que leur objectif, c'est de toujours vendre plus de vélos. Mais nous, on n'y est pas trop confrontés. Je dirais que c'est un problème qui a toujours existé. Je ne sais pas si ça s'empire. Peut-être que ça s'empire.
À la base, on n'avait pas ce cadre-là. On avait acheté un cadre sur le Bon Coin. Et on le trouvait trop sexy et trop beau avec des trucs bleutés. Et en fait, l'anthraxe de la roue arrière n'était pas du tout standard. Et du coup, on s'est dit qu'on allait trop se galérer à trouver une roue. Du coup, on a changé le cadre, mais il se trouve qu'on a trouvé quasiment le même cadre dans le stock de la cyclique. Du coup, on a switché ni vu ni connu.
Est-ce que tu as un exemple de pièce où il y a plein de standards différents et il faut faire attention à prendre la bonne ?
Eh bien, sur les trucs modernes, les boîtiers de pédaliers, ça peut être un peu tout un truc. C'est pas les mêmes filetages, des fois, c'est pas les mêmes diamètres et il y en a un peu de plus en plus. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont plus courants, donc si on a un truc courant, ça le fait, mais si on a un vélo un peu ancien avec un truc un peu niche, on va pas forcément avoir les pièces. Il faut avoir de la chance pour trouver la bonne. Voilà.
Mon vélo, il s'appelle Hippolyte.
Et pourquoi ?
Parce que c'est un prénom que j'adore et je me suis dit, mon premier enfant, je l'appellerai comme ça.
Alors en attendant d'avoir un enfant, t'as un vélo ?
Exactement.
Et du coup, ça t'est arrivé de pas pouvoir réparer un vélo parce que c'était pas possible ou trop compliqué de trouver la pièce qui était cassée ?
Ouais. Ouais, des fois, j'ai conseillé à des gens de... En fait, sur un vélo ancien qui n'a pas trop de valeur monétaire, que la personne utilise juste comme vélo de ville, en fait, ça vaut pas le coup de mettre peut-être 20-30 euros dans une pièce à commander. Et du coup, je me suis retrouvée à conseiller la personne limite de changer de vélo pour une pièce qui était difficile à trouver, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu triste.
Mais je l'appelle Hortense parce que c'est mon compagnon, c'est le seul que je me suis jamais fait voler. Et du coup, j'ai beaucoup d'affection avec ce vélo. J'ai pas envie de le mettre à la benne. J'ai envie de pouvoir le faire rouler le plus longtemps possible.
Et est-ce que le fait qu'il y ait plein de standards différents, ça implique qu'il y ait besoin de plein d'outils différents ?
Oui, il y a certains outils, on est obligé d'en avoir plein. Par exemple, pour les roues libres, c'est le système un peu plus ancien. Maintenant, on a des cassettes, donc c'est sur, pour mettre les pignons, du coup, les vitesses. Les roues libres, pareil, il y avait plein de modèles différents. Et donc, on est obligé d'avoir plein d'outils pour les enlever. C'est un outil qu'on va rentrer qui va avoir une sorte d'empreinte pour pouvoir dévisser la pièce. Et ça, on est obligé d'en avoir, ouais, je pense, une dizaine. Et encore, je pense qu'il y en a qu'on n'a pas, quoi.
Bah, une clé-molette. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on met là pour tenir le cap des freins arrière. Je sais pas comment ça s'appelle.
Une troisième main, peut-être.
Bon,
je sais
voilà.
Pas si c'est le nom officiel, mais... Bah, je crois qu'il y a des gens qui appellent ça des troisièmes mains.
Donc ça, et après, des chiffons. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout.
Mais globalement, on arrive à réparer. Je dirais que je suis catastrophiste. Mais la plupart des vélos qu'on croise, on arrive quand même à les réparer. Et on a quand même beaucoup d'outils ici. Enfin, on a la chance aussi d'avoir un grand espace, d'avoir aussi des sous de fonctionnement de l'atelier qui permet d'approvisionner en outils. Donc on s'en sort bien quand même. Mais ça peut arriver rarement qu'on se retrouve coincé. C'est système D, quoi. Des fois, on y arrive, mais on sort de la méthode traditionnelle de réparation.
Tu veux me parler de ta relation avec ton vélo ?
C'est trop mon bébé d'amour. Je l'ai accouché.
Il a quel âge ?
Je sais pas quel âge il a en lui-même, mais moi, je l'ai eu il y a 2 ans. C'est un peu une filiation. J'avais le vélo de ma mère qui est morte et on me l'a volé. Et du coup, j'ai acheté celui-là après. Donc, dans ma tête, c'est un peu... Tu vois, c'est la continuité. Du coup, je l'aime d'amour.
Et voilà, donc, les grandes questions de comment on peut réparer un vélo. Quand est-ce qu'on considère qu'un vélo, il est foutu et qu'il faut le jeter, par exemple? Mais ça pose aussi la question de la production des vélos et de l'industrie et des standards, etc. Ce qu'on peut raconter là-dessus, c'est que jusque dans les années 90, il y avait un petit peu des entreprises en France qui produisaient des vélos entre des usines et des formats artisanaux, mais qui produisaient quand même beaucoup, mais qu'on peut dire plus proche de l'artisanat dans la mesure où les salariés, les ouvriers dans les usines pouvaient peut-être plus facilement changer de rôle, même si la répartition des tâches dans l'usine et des métiers et des ateliers étaient quand même des répartitions très sexistes et très racistes. Mais tout de même, il y avait plus de facilité de pouvoir bouger et de faire plusieurs choses dans l'usine. Ça ne veut pas dire que c'était pas des productions polluantes, par exemple, et ça ne veut pas dire que non plus c'était pas industriel dans la mesure où il y a de fait besoin de l'industrie derrière, parce que même si toute une partie des pièces sont usinées, taillées, coupées, enfin soudées dans des petites industries, dans des très petites usines ou quoi, reste que la production de métal, c'est une production industrielle, que pas mal des pièces, des tubes par exemple, ils sont fait de manière très industrielle, etc. Et depuis les années 90, à part de l'artisanat pour des vélos très haut de gamme, faits sur mesure ou quoi, on trouve quasiment plus de vélos produits dans des très petites industries, mais c'est vraiment des industries énormes, souvent internationales, et c'est des firmes, quoi. Et donc, tout ça nous amène à la question de « et qu'est-ce qu'on ferait plus tard s'il y avait un changement social global ?» Et c'est une des questions qui se pose dans le livre « Bâtir aussi », qui a été écrit collectivement par les ateliers de l'Antémonde. C'est un recueil de nouvelles qui a été publié par Cambourakis aux éditions dans la collection Sorcières. Et en fait, dans une de leurs nouvelles, c'est une des questions qui se pose. Il y a des personnes en fait, qui ont ouvert une usine pour pouvoir produire des vélos et entretenir des vélos, avoir des pièces de rechange. Et du coup, j'avais envie de vous lire un petit extrait polémique, finalement. L'époque du tout récup est depuis longtemps révolue. C'était bon pour les premières heures de la raca. Depuis, il a fallu réinventer les pièces, apprendre à tailler le métal à la main, fondre, mouler, forger. Il a fallu expérimenter, réfléchir, essayer, réfléchir encore, améliorer. Et tout ça jusqu'à obtenir des prototypes fonctionnels, adaptables, assemblés avec un minimum de soudure parce que ça demandait trop d'électricité ou de gaz, la soudure. Bricolé, mais bien pratique, non ? La flatte Martha. Pratique et belle, acquiesce Jeanne. Et imagine dans 20 ou 30 ans, Gigi, quand la Manuf sera devenue une usine digne de ce nom. Jeanne reconnaît bien là les ambitions pro-industrielles de Martha, mais elle n'a pas envie de relancer la polémique. Pour Jeanne, les Vélas de 2021 sont parfaitement adaptés à leur réalité matérielle, mais elle garde cette remarque pour elle. Elle répète avec conviction. Elles sont parfaites, parfaitement parfaites. Elles n'ont pas le temps de faire le tour de la cour que Théo les rejoint déjà en courant pour participer à la visite commentée. La quasi-totalité du stock a été constituée lors des campagnes de tri post-insurrection. Dans les entrepôts suivants, le matériel est rangé par matière, cuivre, acier, fonte, inox et laiton, zinc, plomb, étain et aluminium. Il y a aussi les plastiques et quelques boxes pour le verre. Le tout est étiqueté par utilisation possible, voiture, camion et tracteur, véla, objet ménager. Martha relance son amie. Vous avez investi les deux autres ateliers derrière ? Pourquoi faire ? On a assez de boulot comme ça. Mais ça serait le moment de relancer les fourneaux de ces salles-là, non ? Vous changeriez radicalement d'échelle. Martha, la fonderie a multiplié par 7 sa production en 2 ans. C'est amplement suffisant. Retaper les fourneaux existants, ce serait plus simple que d'en construire d'autres, non ? Mais on n'a pas besoin d'en construire d'autres ailleurs. Ça vous permettrait de vous spécialiser dans la production de métal, quitte à réinstaller l'usine de Vela dans un autre bled. Martha, tu étais là avec nous. Tu sais bien qu'on a tout lancé de zéro. On a augmenté la production de manière quasi constante et on est perpétuellement limite en main-d'œuvre. Théo ouvre les bras, agacé lui aussi. Et qui voudrait travailler ici tous les jours ? Toi peut-être ? Théo parle rarement fort, mais il faut bien couvrir le ronflement des fourneaux. Jeanne n'ajoute rien. Martha sourit l'air narquois, ce qui finit d'énerver le garçon. « On va pas s'auto-exploiter pour accéder au paradis des révolutionnaires. Toute la région nous sollicite, mais on ne peut pas suivre. Et c'est très bien comme ça. Dis quelque chose, Gigi. » Mais c'est Martha qui réplique, visiblement satisfaite de les provoquer. « Il me semble qu'il y a des besoins et qu'on a le devoir de fournir un minimum, non ?» Un minimum, mugit Théo. Dis plutôt un maximum. Gigi, mais elle m'énerve là. J'ai pas envie de faire du monotage toute ma vie pour contenter les théoriciens théoriciennes de la Révolution. Elle n'arrête pas de dire bande de petits joueurs, bande de feignants. Je dis juste que vous pourriez avoir un peu d'ambition, chicane Martha. La relance de la manuf, ça demanderait de la folie. Si on n'avait pas rêvé un minimum, on tournerait toujours avec 4 petites forges et rien, et 10 clés à molette. Mais retourne-y dans tes rêves, parce que nous, avec 10 clés à molette, on s'en sort très bien. Tu veux augmenter la production ? Mais pourquoi ? Pour aller à l'autre bout de la planète quand ça te chante ? À quoi bon ? À quoi bon voyager vite et loin ? Vite et loin, Théo ? Relève Jeanne en rigolant. On construit des Vélas, pas des jets supersoniques quand même. Il me semble qu'il nous reste un petit peu de marge. Voilà, j'avais envie de vous partager cet extrait qui parle d'industrialisation, d'industrie et de choix industriels finalement et d'imaginaire pour un autre monde et sur cette base du vélo et de la production de nos pièces de vélo dont on a tant besoin et où parfois la récup et le recyclage ne suffisent pas et on a besoin de pièces neuves finalement. Voilà. C'est la fin de l'émission. On va vous quitter avec un dernier morceau de musique qui est le morceau de Juliette, Un petit vélo rouillé. Bonne soirée.
Bonne soirée, à la prochaine.
Un petit vélo rouillé dans un grincement minable tourne sur mon oreiller. Une ronde interminable, il va le guidon tordu, braque-balle et roues voilées, indifférent et têtu, sur le point de dérailler. Petite reine abîmée par ses courses sans victoire, qui laisse mon âme tachée du cambouis des idées noires. Ainsi vont mes nuits sans toi, à le regarder tourner, en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées. Vélo rouillé dans un grincement bizarre n'en finit pas de rallier la raison au cauchemar. Il va en suivant sa route sans pilote ni passager. Ce n'est rien qu'un petit doute dont les freins auraient lâché. Et sur la piste ensablée des bas-fonds de ma mémoire, il fait tintinabuler la sonnette des cils noirs. Ainsi vont mes nuits sans toi, à le regarder tourner, en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées.
653e tour, l'amour est dépassé par la jalousie. Mortel !
Un petit vélo rouillé dans un grincement sordide prend un chemin embrouillé, pédale dans le vide. Il va roulant sur la jante, de plus en plus déglingué, traçant d'une roue méchante, cercle vicieux et vicié. Pour ne pas le voir
pas trop tard. J'ai sur mes deux yeux crevés la rustine des cités noires. Ainsi vont mes nuits sans toi, à leur regarder tourner en comptant du bruit.